donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 septembre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Jean-Roger Bion et Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, l'ONU se dit outrée de ses soldats au Mali suite à l'attaque d'Aguelo qui a fait 5 morts.
Albert Konders a condamné cette nouvelle attaque avec la plus grande fermeté. Le chef de la mission onusienne fait appel aux leaders des partis réunis à Alger pour qu'ils assurent leur entière et pleine responsabilité.
Les chasseurs français ont lancé vendredi, aujourd'hui, leur premier raid contre des positions du groupe État islamique en Irak. La France est le premier pays à se joindre à la campagne aérienne américaine contre ce groupe.
En Écosse, le Premier ministre rend le tablier après la défaite des indépendantistes au référendum. Axel Alex Salmond était le fer de lance des souverainistes.
L'iPhone 6 est dans les bacs depuis ce matin. Apple annonce 4 millions de précommandes.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Et pour l'instant, c'est le journal.
Un des principaux camps militaires d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a été attaqué hier au petit matin. Une information rapportée par l'AFP qui cite un soldat et des riverains, mais qui fait aussi la une des journaux de l'opposition ce matin. Pour le reste, c'est le silence radio. 48 heures après les événements, nous dit notre envoyé spécial à Abidjan, Idriss Fall.
En fait, l'information est donnée d'abord par une agence de presse locale, selon laquelle l'attaque a eu lieu le mercredi et que les assaillants ont été repoussés et qu'il y aurait 10 personnes interpellées. Et on n'en sait pas plus. La même information a été reprise par les journaux d'opposition, ici même à Abidjan. Mais aucune communication dans ce sens. La radio nationale n'en a pas parlé, la télévision nationale non plus. Et le porte-parole du gouvernement, Bruno Kone, lui aussi, n'a fait aucun commentaire sur cette attaque. On ne sait pas qui sont les assaillants, on ne sait pas qui sont les personnes arrêtées, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière comme motivation. Donc vraiment, il n'y a pas de communication par rapport à cette attaque contre le camp d'Akwedo.
Merci Idriss Fall. La nouvelle incursion de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, d'après l'AFP, 6 personnes, dont 4 civils camerounais, ont été tués hier soir lors de 2 attaques distinctes. À Sigasia, l'assaut des islamistes nigériens aurait provoqué un accrochage avec des soldats. Un officier de police aurait fait de 2 assaillants tués, aurait fait état de 2 assaillants tués. Et à Gansé, les djihadistes de Boko Haram auraient fusillé 3 personnes et égorgé une autre, d'après une autorité locale citée par l'agence France-Presse.
Au nord Mali, retour sur l'attaque d'hier qui a fait 5 morts et 3 blessés parmi le contingent tchadien de la MINUSMA dans la zone d'Aguelok. Le chef de la mission onusienne condamne fermement et invite les leaders des parties prenantes à la crise malienne, réunis à Alger, à assurer leur pleine responsabilité. On fait le point avec Boubacar Touré.
5 soldats tchadiens de la mission de l'ONU au Mali ont été tués et 3 autres blessés hier jeudi par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord du pays, dans la zone d'Aguelhok. Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali, Albert Konders, a condamné cette nouvelle attaque avec la plus grande fermeté. Le chef de la mission onusienne au Mali fait appel aux leaders des partis réunis à Alger pour qu'ils assurent leur entière et pleine responsabilité conformément à la déclaration qu'ils ont signée à Alger le 16 septembre dernier lors de la réunion de la commission technique mixte de sécurité. Il faut le rappeler, le 14 septembre dernier, toujours à Aguelhok, un soldat tchadien avait été tué et 4 autres blessés par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. En tout cas, 3 groupes djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Sardine et le Moujaou, étaient les maîtres absolus du nord du Mali près de 10 mois avant d'être chassés et dispersés dans la nature suite à l'intervention de la force française en janvier 2013. Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Guinée a suspendu ses missions d'information et de sensibilisation à la fièvre hémorragique Ebola dans le sud-est du pays après le meurtre de 4 agents et 3 journalistes en début de semaine. Camille Gros-Didier.
Des habitants de Womé, village proche de Nzérékoré, où l'épidémie s'est déclarée en mars, ont attaqué mardi une délégation de travailleurs de la santé chargée d'informer les gens sur les moyens de prévenir et traiter l'Ebola. Leurs corps ont été retrouvés dans les latrines du village jeudi. Les autorités ont précisé avoir interpellé au moins 6 suspects dans cette affaire. Le docteur Fanta Kaba, secrétaire permanent au ministère guinéen de la Santé, estime que les activités de sensibilisation sont devenues impossibles dans le sud-est du pays où l'épidémie d'Ebola avait éclaté en début d'année. Les campagnes contre le virus sont entravées par les craintes et superstitions des populations ainsi que les pénuries de lits et d'équipements. Entre-temps, en Sierra Leone, les autorités ont imposé un verrouillage sur l'ensemble du pays dans l'espoir de contenir le virus. Les 6 millions d'habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux vendredi, samedi et dimanche, tandis que des bénévoles font du porte-à-porte pour tenter de répertorier les cas d'Ebola non signalés et fournir des informations sur la façon d'éviter cette maladie mortelle. Cette décision ne fait pas l'unanimité des experts de la santé, faisant valoir qu'elle pourrait conduire certaines personnes à se cacher et que le bouclage sera extrêmement difficile à faire respecter.
Et toujours sur la question de l'Ebola, Nathalie Bage revient sur le confinement sans précédent de la population à Freetown.
Beaucoup de gens ont passé les derniers jours à s'approvisionner, histoire de ne manquer de rien durant ce long week-end qui va se passer enfermé à la maison. L'objectif de cette opération de cantonnement est de faciliter la détection de malades qui seraient cachés par leur famille, de distribuer des kits de premiers soins et d'informer sur la manière de se protéger contre la maladie. Lors de cette campagne de sensibilisation sur le virus Ebola, environ 20 000 bénévoles doivent donc faire du porte-à-porte.
Basically, to be able to provide very clear message about Ebola.
Steven Gaudja du Centre d'opération d'urgence souligne l'importance de la démarche, disant que les gens sauront ainsi exactement comment procéder s'ils comprennent qu'un membre de la famille est atteint d'Ebola. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé la création de la mission des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola, qui sera basée dans la région touchée. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution appelant à augmenter les ressources pour la crise sanitaire. La communauté internationale a également exprimé son inquiétude à propos de la sécurité en Afrique de l'Ouest alors que le virus se propage.
En République centrafricaine, le Front démocratique du peuple centrafricain décline ses responsabilités face au rapt de 10 personnes par ses éléments. Il qualifie de barbares ces enlèvements qui se sont produits dimanche dernier dans l'ouest du pays. On fait le point avec Chouchou Kawa.
Selon le bureau politique du FDPC, l'enlèvement des 10 passagers n'engage que ses auteurs. Ousmane Adam, secrétaire général de ce mouvement armé, a qualifié aujourd'hui de barbare l'acte posé par leurs éléments à l'ouest de Centrafrique. Il rassure les parents des otages sur l'aboutissement des négociations en cours.
Cette situation vraiment regrettable que le FDPC condamne avec dernière énergie. Cet acte barbare est moins un jeu qui n'honore pas ses auteurs, n'engage nullement la responsabilité du FDPC, pourtant co-signateur de l'accord de Brazzaville sur la cessation des hostilités. Le bureau politique du FDPC présente ses vifs regrets aux parents, amis et connaissances des otages et les rassure d'un heureux aboutissement.
Rappelons que 10 passagers ont été enlevés le dimanche dernier par les éléments du FDPC entre les villages Foro et Zoukombo, à l'ouest de Centrafrique. Ils conditionnent leur libération à celle de leur chef en détention, Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, détenu depuis septembre 2013 au Cameroun. À Bangui par ailleurs, 160 gendarmes et 80 policiers ont reçu aujourd'hui leur diplôme après 3 mois de formation donnée par l'EUFOR. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays, dont le premier ministre de la transition, Mahamat Kamoun, les forces de la MUNUSCA et de l'EUFOR.
Nouveau rebondissement au Niger autour de l'affaire du trafic de bébés. Les 12 femmes écrouées depuis juin ont été interdites de visite durant une semaine pour détention illégale de téléphone portable. C'est ce qu'indique la justice nigérienne. En fuite en France, le président du Parlement, Mahamadou, impliqué dans l'affaire, s'indigne des conditions de détention d'une de ses épouses depuis son départ. Faute de pouvoir m'attraper, on se venge sur ma femme, avait-il affirmé. Depuis mon départ, elle est quasiment séquestrée, cite l'AFP.
Réforme de l'armée en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a signé 29 ordonnances cette semaine visant à réorganiser l'armée sur le territoire. L'objectif, c'est notamment de consolider la paix dans l'est du pays.
Et en Ouganda, le président Museveni a limogé son premier ministre, Amama Mbabazi, vu comme un rival potentiel à la présidentielle de 2016. Il a été remplacé par son ministre de la Santé, Ruakana Rugunda.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Irak, la France a annoncé avoir procédé ce vendredi à ses premières frappes aériennes près de Mossoul, dans le nord-est du pays. Hier, le président américain Barack Obama avait salué la décision de la France d'intervenir en Irak. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Selon le ministère français de la Défense, l'opération qui s'est déroulée dans la région de Mossoul a impliqué deux avions Rafale équipés de bombes air-sol guidées laser. Un dépôt logistique des djihadistes du groupe État islamique aurait été détruit, dépôt qui contenait beaucoup de munitions, des véhicules et des réserves de carburant. Dans un communiqué, le président François Hollande a précisé que l'objectif avait été atteint et entièrement détruit. Il a ajouté que d'autres opérations auraient lieu dans les jours à venir. François Hollande avait annoncé jeudi, au cours d'une conférence de presse, avoir autorisé d'ouvrir le feu, soulignant qu'il n'y aurait pas de troupes au sol et que la France ne frapperait pas en Syrie. Le président américain Barack Obama avait alors salué la décision de la France de procéder à des frappes en Irak, jugeant que la coalition contre des djihadistes de l'État islamique prenait forme. Des discussions sont prévues en milieu de semaine prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre les filières terroristes qui affluent de l'étranger en Irak et en Syrie.
En Écosse, le premier ministre Alex Salmond a démissionné de son poste quelques heures après la confirmation de la victoire du non lors du référendum sur la souveraineté. Le camp du non a remporté le scrutin référendaire avec 55,3% des suffrages exprimés contre 44,7% pour le oui.
C'est fait, l'iPhone 6 est en vente depuis ce matin en Grande-Bretagne, au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays à travers le monde. Des milliers de clients ont fait la queue devant les magasins Apple à travers le monde. Certains ont attendu à l'extérieur pendant des heures, voire des jours, pour avoir dans la main le iPhone 6 ou le iPhone 6 Plus. D'autres ont voyagé dans des pays étrangers pour trouver un magasin de vente de ce nouveau modèle, notamment de Chine, où la mise sur le marché du nouvel iPhone est confrontée à des obstacles procéduriers.
Voilà pour le journal. Au micro, Jean-Roger Billon et Morgane Guiriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la VOA. On enchaîne avec la partie magazine de notre émission.
Au Kenya, commémoration du premier anniversaire de l'attaque terroriste contre le centre commercial de Westgate à Nairobi. Les survivants ont toujours du mal à effacer de leur mémoire les horreurs de cette tragédie et ils se demandent comment cela a-t-il pu bien se passer. Michel Joseph.
Tout est calme à Westgate où se poursuivent les travaux de réfection. Samedi 21 septembre 2013 à midi, quatre hommes armés d'Al-Shabaab ont pris d'assaut le centre commercial, tirant sur tout ce qui bougeait. 67 personnes ont été ainsi tuées et des centaines blessées. Les Shababs somaliens disent avoir attaqué pour se venger des opérations militaires kenyanes en Somalie. Dans des circonstances non encore élucidées, il a fallu 4 jours aux forces kenyanes pour reprendre la situation en main. Karsan et Harish Rabadia étaient parmi les premiers civils à arriver sur les lieux pour aider les blessés à fuir Westgate. Considérés aujourd'hui comme des héros, ils n'en éprouvent pas moins des sentiments de regret, d'amertume et de peine. Je ne peux pas oublier ceux qui ont été tués. Cela fait maintenant un an, mais c'est toujours là. C'est très difficile pour moi d'oublier ce qui s'est passé ici, dans ma vie. Dédiant à Nairobi un mémorial aux survivants et civils qui ont risqué alors leur vie, la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, a déclaré « Notre résilience est incomparable. L'unité dont nous avons fait montre en temps de crise ne devrait jamais être oubliée. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous nous devons d'être les protecteurs les uns des autres. » Selon une enquête parlementaire, le gouvernement avait été averti d'une possible attaque terroriste contre le centre commercial. Et on a reproché aux forces de sécurité des retards ou une riposte désorganisée qui pourrait avoir coûté des vies. Et puis, des caméras de surveillance ont attrapé des soldats en train de piller le centre commercial après l'attaque. Les Kenyans se posent encore des questions sur ce qui s'est passé il y a un an. Ambi Gautauhei. Il a perdu sa mère et son fils à Westgate. Sa nièce, Harvin Sira. Harvin, qui a 16 ans, a été atteinte par 3 balles. Comme tant d'autres survivants, elle reste hantée par le cauchemar du 21 septembre 2013.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Partons maintenant en Côte d'Ivoire. Des centaines de personnes qui ont payé leur billet pour se rendre en pèlerinage à la Mecque sont toujours bloquées à Abidjan. Pour l'essentiel, il s'agit de personnes originaires de pays de la sous-région qui habitent en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Venus des autres coins du pays, ils en sont réduits à dormir sous des tentes ou à la Belle Étoile autour de la mosquée de la Riviera Golf qui sert de lieu de départ aux pèlerins. Idriss Fall, notre envoyé spécial, s'est rendu sur place.
Des centaines de personnes qui rêvaient d'aller à la Mecque, lieu saint de l'islam, ne savent plus à quel saint se vouer. Agglutinés à la mosquée Riviera Golf et racontent leur calvaire.
C'est faussé dès au départ. Hein. Pour aller à la Mecque, on n'a pas besoin de choisir la nationalité. Et donc, on dit la vérité. L'islam n'a pas besoin de mensonges.
Donc, quand on voit le courage de Dieu, chacun n'a qu'à aller chez lui pour aller faire son pèlerinage. Mais si tu as pris la responsabilité de plus de 400 personnes, c'est que tu es capable d'assumer. On a versé de l'argent où ? Dans la caisse de l'État ivoirien. Ou bien, c'est pas au Burkina on a versé, c'est pas au Mali on a versé.
Et vous avez payé combien ?
Nous avons payé au trésor 2 millions.
On nous avait dit que les vols, c'était le lundi, le dernier vol. Et on est arrivé depuis dimanche.
Maintenant, vous vivez comment alors ?
Pratiquement tout le monde, tous ceux qui sont ici, nous dormons au dehors ici.
Je ne cesse de faire des va-et-vient, je suis fatigué. Et lorsque j'attends, je ne vois rien, j'entends rien. C'est dur.
Les gens sont livrés à eux-mêmes. Sur le site, ils mangent comment ? Moi, j'ai dormi à la Belle Étoile ici pendant 3 jours.
Lundi, vous l'avez fait au Kanchara, à l'aéroport là.
Depuis lundi, j'étais dans le car pour l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, embarqué encore pour les déposer à la mosquée. Jusqu'à présent, ce sont des réunions. Ils ne disent rien de bon jusqu'à présent.
Bamba Messamba, directeur général des cultes, chargé d'organiser le pèlerinage à la Mecque.
Les autorités saoudiennes viennent de prendre une nouvelle disposition que plus personne ne doit aller au pèlerinage que dans son pays. Donc les non-nationaux qui sont ici, leur passeport ne peut pas être enregistré. Des négociations ont été entreprises et les autorités saoudiennes ont donné leur accord pour nous délivrer des visas pour ces personnes. Mais la délivrance du visa est un peu lente. Bon, c'est ce qui crée quelques remous.
Est-ce que vous pouvez affirmer avec certitude que ces pèlerins actuellement recalés vont finir par partir à la Mecque?
Nous avons une date butoir pour la fermeture de Médine pour l'entrée en Arabie Saoudite. Nous avons aussi le système informatique. En fonction du rythme de délivrance des visas, nous pensons que si tout ça est fait à temps, ils pourront effectivement partir.
Pour autant, a-t-il convaincu les intéressés?
C'est du foutage de gueule. On ne peut pas comprendre qu'une structure étatique puisse prendre de l'argent avec 400 personnes, un total d'environ 800 millions, alors qu'ils ne maîtrisent même pas les conditions pour les faire partir. Ça s'appelle de l'amateurisme, tout simplement.
Ils n'ont qu'à dire la vérité aux gens. Nous ne sommes pas des enfants pour qu'on se fout de nous. Nos parents ne vont pas bouger ici. S'ils vont bouger ici, là, on est devant la porte d'Alassane Ouattara.
Depuis Abidjan, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
En FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Les Écossais ont décidé de rester dans le Royaume-Uni après un référendum où le non à l'indépendance l'a emporté à 55,3%. Un vote négatif qui a pourtant incité Londres à donner plus de pouvoir aux 4 nations qui composent le Royaume-Uni. Le point avec Nicolas Pineau.
Et la nuit a été longue pour les Écossais qui ont suivi le décompte bureau par bureau à la télévision. Le non l'a donc emporté et dès 7h du matin, heure de Londres, David Cameron a pris la parole. Le Premier ministre estime que c'est un résultat sans équivoque.
So there can be no disputes, no reruns. We have heard the settled will.
Il ne peut y avoir aucune contestation, aucun nouveau vote. Nous venons d'entendre la décision du peuple écossais. L'Écosse a voté en faveur d'un Parlement écossais plus fort, épaulé par la force et la sécurité du Royaume-Uni. Et je veux féliciter la campagne pour le non, pour avoir montré que nos nations étaient mieux ensemble. Monsieur Cameron a expliqué que les partisans de l'Union honoreraient leurs engagements concernant le renforcement des pouvoirs du Parlement écossais. Alex Salmond, le leader du Parti national écossais, a concédé sa défaite tout en soulignant qu'1,6 million de personnes ont voté pour quitter le Royaume-Uni. Par conséquent, M. Salmond a demandé à Londres d'accélérer le transfert de pouvoir vers Édimbourg. Je pense que ce processus au bout duquel nous avons pris notre décision apporte beaucoup de crédit à l'Écosse. Avec un taux de participation de 84%, l'un des plus élevés de l'histoire dans le monde démocratique pour une élection ou un référendum. C'est un triomphe du processus démocratique et de la participation dans les affaires politiques. Dans l'immédiat, David Cameron a évité le scénario cauchemar d'une désintégration du Royaume-Uni qui le hantait. Mais dans le rang de son parti conservateur, des députés lui reprochent sa gestion calamiteuse du référendum écossais et surtout l'ampleur des cadeaux post-électoraux. Ils seront détaillés dans un document de travail à l'horizon novembre afin d'être soumis au Parlement en janvier 2015, dans le meilleur des cas. L'intérêt a également été vif dans le monde pour ce référendum écossais. Le président américain Barack Obama a exprimé son soutien à un Royaume-Uni fort, robuste et uni. Le président français François Hollande a mis en garde contre les égoïsmes, les populismes et les séparatismes. À Bruxelles, les dirigeants européens n'ont pas caché leur appréhension face à la perspective d'une contagion nationaliste, notamment en Espagne, avec la Catalogne et le Pays Basque.
Les Écossais ont dit non à l'indépendance, vous l'avez dit Nicolas Pineau, envers le Royaume-Uni, mais ce référendum a suscité des espoirs sécessionnistes. Ici aux États-Unis, auprès de certains, près d'un quart de gens sont favorables au retrait de leur État de l'Union, révèle un nouveau sondage Reuters Ipsos, Sarah Diaby.
Sur près de 9000 Américains interrogés entre le 23 août et le 16 septembre, 23,9% sont en faveur de la sécession de leur État respectif, tandis que 53,3% s'y opposent. Ceux qui veulent couper les liens avec Washington appartiennent à tous les partis et régions, bien que les républicains et habitants des régions rurales des États de l'Ouest sont plus favorables à l'idée que les démocrates et les habitants du Nord-Est, selon le même sondage. Ces sentiments s'expliqueront en partie par la colère contre la manière dont le président Barack Obama gère des dossiers allant de son programme de soins de santé à la progression des djihadistes de l'État islamique au Moyen-Orient. Les républicains, cités dans le sondage, ne cachent pas que leur déception envers son administration a influé sur leur position. Mais d'autres disent que l'impasse plutôt chronique entre démocrates et républicains à Washington les a amenés à se demander si la sécession ne serait mieux pour eux. Une décision qu'aucun État n'a essayé de prendre depuis la fin de la guerre de sécession qui a permis il y a 150 ans de mettre fin à l'esclavage dans le Sud. C'est en Nouvelle-Angleterre, berceau de la Révolution américaine, que les velléités sécessionnistes sont moins populaires avec seulement 17,4% de favorables. En revanche, 34,4% sont pour dans le sud-ouest des États-Unis, où un groupe d'activistes du Texas a demandé à l'Assemblée nationale d'organiser un référendum sur la question. Mais même au Texas, souligne l'agence Reuters, certains avoueront que tout ce discours sécessionniste est plus un signe de leur colère contre Washington que la preuve d'un vrai désir de se séparer du reste de l'Amérique. Et pour citer la démocrate Lila Guzman de Round Rock, une telle menace pourrait persuader à Washington les membres du Congrès et la Maison-Blanche de la nécessité de faire plus attention aux préoccupations du peuple de l'Américain moyen.
Et pour l'espoir, nous recevons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jean-Roger.
Les demi-finales de la Ligue des Champions se jouent ce week-end. Nous sommes en football.
Oui, au menu, deux chocs entre clubs de la RDC et deux clubs du Maghreb. Le programme complet, samedi, l'entente sportive de Sétif, le club algérien contre le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Et dimanche, au stade Tata Raphaël à Kinshasa, l'AS Vita Club contre le CS Sfaxien.
Il y a aussi les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération.
Oui, au menu, un choc entre habitués de la Ligue des Champions et une opposition entre deux clubs qui montent. Pour les habitués, ce sera samedi à Garoua, le Coton Sport, le club camerounais, contre Al Ahly d'Égypte. Et puis dimanche, le Sewe Sport sport à San Pedro que vous connaissez bien contre l'AC Léopard d'Olisie.
On reparle des montres de luxe offertes aux membres du comité exécutif de la FIFA corruption.
En tout cas, allégation, Michel Platini a réagi dans cette affaire qui secoue actuellement la FIFA. Il a déclaré « Premièrement, je suis surpris du montant de la valeur de la montre, un peu plus de 25 000 francs suisses. Et ensuite, je suis surpris du communiqué de la FIFA. Si le comité d'éthique n'était pas content, il devait nous le dire il y a 4 mois au Brésil quand on a reçu ces montres. Mais là, c'est uniquement après un article dans la presse anglaise. Platini n'a pas l'intention de rendre la montre, il va verser la somme équivalente à une association caritative. »
En tennis, la joueuse Lina annonce sa retraite.
Et la championne de tennis chinoise, actuellement numéro 6 mondiale, a confirmé en effet aujourd'hui qu'elle prenait sa retraite sportive en raison de ses problèmes physiques. C'est ce qu'elle a déclaré dans un communiqué publié sur son compte de microblog. N'étant plus en mesure de jouer au même niveau qu'auparavant, j'ai pris la décision qui s'impose, arrêter la compétition, a écrit la joueuse de 32 ans, victorieuse en janvier de l'Open d'Australie. Et elle a également remporté à Paris Roland-Garros, c'était en 2011.
C'était l'espoir avec Nicolas Pinault.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Jean-Roger. Tian Winter est un artiste né à Antigua, très motivé, très confiant et très talentueux, je dois le dire. Il a un talent fou avec une capacité unique de mélanger des chansons populaires de chez lui et R&B et en faire un style caribéen, un contemporain, créant un produit musical qui fait bouger tous ses fans. Ce soir, on l'écoute dans Bump and Grind. Non, 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 non.
Tonight I say, I feel like teasing, boy. I'll be pleasing you, boy. You're not leaving until I hold on you, boy. Oh, why do you tempt me, my baby? It's probably because I feel too high. If I could hold you, my baby, I wanna hold on you, make a love tonight. I wanna jump on you.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de la VOA Afrique. Au micro, Jean-Roger Billon
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.